Voilà, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte. Je vous invite à prendre place et puis à faire peut-être bon accueil, bon silence, à un petit morceau de musique que nos amis nous ont préparé. Que fais-tu là? Pourquoi es-tu ici? Dieu a posé cette question à un prophète, le prophète Élie, suite à sa fuite, et puis alors qu'il se réfugie dans une caverne sur le mont Horeb, qui est le Sinaï, et il fuit des grandes violences et aussi des graves menaces qui pèsent sur lui. Cet épisode de la vie d'Élie, de ce prophète, va nous accompagner ce matin. On trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Que fais-tu là? Pourquoi es-tu ici? Cette question nous a été posée au mois d'octobre dernier en faisant un camp montagnier foi du côté de Bethmeralp avec nos amis Damaris et puis Gérard Pella et d'autres. Et puis chaque matin, un texte nous était proposé. Le thème, c'était « Un homme sur la montagne » dans la Bible. Et ce jour-là, c'était l'histoire d'Élie avec cette parole que Dieu lui adresse. « Que fais-tu là? Pourquoi es-tu ici ?» Nous étions ensuite encouragés pendant les marches de la journée à méditer ces questions ou la question que nous avait été posée ce matin. C'est vrai, que fais-je ici, ce matin? Dans quel état d'esprit est-ce que je suis venu au culte? Dans quel état d'esprit suis-je pendant la semaine? Qu'est-ce que je fais ici, à Mérin, sur Terre, dans mon travail, à l'école? Qu'est-ce que je fais? Dieu va s'adresser à Élie, il va le visiter, il va le rejoindre dans sa caverne. J'en dirai pas plus, Sylvain va nous conduire. Et le thème ou le fil rouge, ce sera Dieu, ou la religion, foi et violence. Et est-ce que Dieu a quelque chose à nous dire au travers de tout cela? Voilà, je vous invite à une prière d'invocation. Grâce te soit rendue pour la parole, Dieu notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves, du corps, de l'esprit et de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses. Dans la tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans mon cœur une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin et me rende capable d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour par mon service, mon témoignage et mon propre amour. Amen. Voilà, nous allons passer un petit moment, nous allons avoir deux chants présidés par Mathieu. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui ont préparé ce culte, tous ceux qui se sont levés tôt, qui ont fait des tas d'arrangements, qui sont venus nettoyer pendant la semaine. Il y a une liste qui est énorme. Merci beaucoup.
vous invite à vous lever et à nous rappeler avec ces premiers chants de culte, malgré toutes les tribulations qu'on peut subir dans la semaine, du plaisir qu'on a de se retrouver ensemble le dimanche matin entre frères, entre sœurs, en église, et à pouvoir chanter, proclamer son nom tous ensemble comme une seule personne. Je vous invite à chanter « Je crois en Jésus ».
Thank you.
pliez. Vous pouvez rester debout. Seigneur, merci parce que toi seul es digne. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Tu veux aussi accompagner nos enfants maintenant avec leur moniteur ou poète, te demandant de les bénir. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, qui sont peut-être cloués par la maladie dans leur lit ou à la maison, ou ceux qui sont en déplacement. Pour toute raison, Seigneur, rejoins-les. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Amen. Voilà, les enfants, pour rejoindre vos moniteurs, monitrices en bas. Encore merci à tous ceux qui s'engagent avec nos enfants. J'invite aussi maintenant Sylvain à nous conduire dans cette prédication que je pense qu'il va être très intéressante. Merci. Que le Seigneur t'accompagne.
Merci. Alors, le texte qu'on va méditer ce matin, dans un petit moment, ça m'est venu en raison d'une question, de deux choses. Une question, je pense qu'on a un peu tous, qui est celle de la violence. La violence et la religion, d'ailleurs c'est peut-être l'objection majeure qu'on fait en général à la religion, mais aussi à nous, et la violence dans la Bible. Et puis, il y a un texte qui m'est venu, qui me semble en rapport avec ça, et qu'on a médité dans un groupe, une sorte de cellule où je participe à Lausanne avec des amis. Alors, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous avez vu, qui d'entre vous a vu l'expo « Dieu, mode d'emploi » ? Pas mal de gens. Avec une pièce qui pose de manière assez intéressante, je trouve, la question de la violence. Je pense qu'elle est excellente. Moi, je la trouve excellente. Évidemment, on peut questionner l'espèce d'ode à l'idéologie de la laïcité qui est à la fin de la pièce, mais ça pose des questions extrêmement intéressantes. Et si jamais c'est le dernier jour aujourd'hui? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend dire en arabe « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand », pour justifier des actes de terrorisme, ça devrait nous faire mal. Bon, c'est pas nous, c'est quelques musulmans, certains seulement, hein. Mais quand même, ça interpelle qu'on puisse utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence. Et il faut reconnaître que l'histoire du christianisme est truffée de violence. Alors, je ne sais pas quelle est votre impression, là je pose aussi une question. Est-ce que vous avez l'impression que la société d'aujourd'hui est particulièrement violente ou plus violente qu'autrefois? Je vois quelqu'un qui dit non. Pardon ? Ouais, ouais. Alors, on a effectivement souvent l'impression que la société est particulièrement violente parce que les médias le soulignent. Mais j'ai presque envie de dire, si jamais vous pensez que la société est spécialement violente aujourd'hui, ben lisez la Bible. La Bible, c'est un livre terriblement réaliste sur le fait que la société est profondément violente. Et cette question arrive déjà au tout début de la Bible. Et puis, je pense que chacun peut se rendre compte que la violence est en nous. Moi, je sais que je peux avoir l'air très gentil, mais que j'ai aussi la violence qui est en moi. Puis ceux qui viennent chez moi puis qui voient une vitre qui manque à la porte de la cuisine que j'ai jamais remplacée, ben voilà, il y a une fois un petit acte de violence là qui a laissé une trace. Alors, on ne va pas répondre aujourd'hui à cette question de la violence, parce qu'il faudrait naturellement, il faudrait toute une soirée et plus que ça. Mais on va lire un récit qui questionne l'image de Dieu par une espèce de contraste entre un récit extrêmement violent et puis un autre qui parle d'un Dieu qui nous rejoint dans quelque chose de très intime et de complètement contradictoire avec l'histoire d'avant. Alors j'ai envie de dire qu'on peut voir la Bible, parce que ça questionne aussi notre manière de lire la Bible, tout ça, comme un espèce de paysage, de grand paysage très réaliste de l'histoire humaine. Mais il y a des éléments qui ressortent et qui disent autre chose que cette violence qui est partout. Et c'est justement très intéressant de voir ces contrastes. Alors, le contexte de l'histoire qu'on va lire est le suivant. On est au pays d'Israël, on est au 9e siècle avant Jésus-Christ. L'ancien royaume de David a éclaté en deux royaumes. Alors, il y a le royaume, c'est à la fin du règne de Salomon que ça arrive. Il y a deux royaumes, il y en a un au sud, la tribu de Juda, qui reste fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu révélé par Moïse. Et puis dans le royaume du Nord, ben là, ils installent un nouveau sanctuaire, et puis ils commencent à installer aussi un sanctuaire au Dieu des voisins. Et puis un peu plus tard, le roi Akab, en 874, monte sur le trône, il épouse une princesse, enfin la fille d'un roi phénicien qui s'appelle Jézabel. C'est une alliance politique, bien sûr. Et puis, ces mariages, c'est toujours une alliance politique. Hein. Et puis, c'est une prêtresse des dieux Baal, Astarté, des autres dieux. Alors, Élie est un des prophètes qui dénonce ces pratiques. Et lui et d'autres prophètes sont violemment persécutés par, entre autres, cette femme, Jézabel. Et puis, au chapitre 18, arrive une histoire qu'on nous raconte qui est vraiment digne d'un film à grand spectacle. Parce que ça fait 3 ans qu'il y a la sécheresse dans le pays. Puis, pendant ce temps, Élie, il a été envoyé loin de la capitale, il s'est un peu réfugié ailleurs. On nous raconte qu'il est nourri par des corbeaux, puis ensuite il va se faire nourrir chez une veuve, une pauvre veuve. Et puis là, tout d'un coup, le voilà qui sort du bois pour aller à la rencontre d'Akab, du roi Akab, lui annoncer que la pluie va revenir. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il s'ensuit une espèce de confrontation meurtrière dans laquelle on rassemble tout le peuple. On construit un autel pour faire un sacrifice. C'est un peu l'idée qu'on va faire un sacrifice pour appeler la pluie, hein, bien sûr, on est dans ce contexte de l'époque. Alors d'un côté, il y a 450 prophètes de ces dieux étrangers, les prophètes de Baal, qui pendant tous les jours, toute la journée, font des invocations et toutes sortes de choses pour essayer de faire venir le feu sur le sacrifice. Et puis Élie, pour le dire de manière un peu vulgaire, Élie se fout de leur gueule. Pardon. Il leur dit, mais votre Dieu, peut-être qu'il dort, il faut crier plus fort pour le réveiller. Ah, mais peut-être qu'il il a dû partir en voyage et puis qu'il a un long chemin à faire pour revenir. Bon. Alors le soir venu, c'est Élie tout seul qui invoque son Dieu. Et puis voilà, la foudre tombe, elle assèche carrément le sacrifice qui avait été auparavant copieusement arrosé, et puis ça met le feu au sacrifice. Et du coup, tout le peuple dit, mais c'est fantastique, voilà le vrai Dieu. Et puis, Élie, il égorge tous ses autres faux prophètes. Et puis, le lendemain, arrive la pluie. Une victoire majestueuse, puissante, violente. Rideau et changement de décor.
Je lis à partir de 1 roi 19, verset 1. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait, en particulier qu'il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et il s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir et il dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. »
Voilà maintenant, c'est la peur qui domine. Élie s'enfuit, hein, d'abord avec son compagnon serviteur, jusqu'au pays de Juda. Il marche une journée seul, puis après ça, il marche seul pendant tout un jour dans le désert. Il s'assied sous un arbuste. Dans le texte, il est question d'un arbuste isolé, souligne encore cette solitude, et il veut mourir. On entre là dans un récit qui est plein d'allusions au récit de Moïse à la sortie d'Égypte. On voyait ce peuple qui a marché dans le désert, qui n'est jamais arrivé jusqu'au pays promis. Et puis, voilà, Élie se sent comme ces gens-là, il ne vaut plus rien. Il voit tout en noir, il se sent seul et complètement impuissant. « J'en ai assez, » dit-il. Et il paraît que c'est un seul mot en hébreu qui dit ça de manière très forte. Élie est donc en pleine dépression. Il vous est peut-être arrivé d'avoir une fois une intense expérience spirituelle et puis de sentir tout d'un coup après un grand vide. Je pense que ça peut arriver quand on est jeune puis qu'on fait un camp de ski ou un autre type de camp fantastique et puis qu'on se retrouve complètement à plat le premier jour d'école. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà passé par une dépression. Mais les statistiques disent que ça arrive à près d'une personne sur cinq au cours de sa vie. Ça ne m'est pas arrivé, ça m'est arrivé de me sentir pas très loin du bord où on tombe dans la dépression. Et les chrétiens ne sont pas épargnés. Si jamais ça vous intéresse, je rappelle que Jane Mayer, qui était une missionnaire Wycliffe, a écrit un livre témoignage qui est magnifique, avec ce titre un peu provocateur, « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci ». Voilà ce Dieu qui nous rejoint. Maintenant, la suite.
S'endormit sous le genêt. Mais un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il vit en effet poser près de sa tête une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. » Élie se leva pour manger et boire. Puis, avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.
Alors voilà Élie qui se couche et s'endort. Et le stress, la déprime, des fois ça nous empêche de dormir, mais des fois ça peut nous faire dormir. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais que face à une journée qu'on a de la peine à affronter, on se rendort parce qu'on n'est pas capable d'affronter la journée. Et je pense aux disciples aussi avant l'arrestation de Jésus, eux aussi ils s'endorment. Alors plus d'intervention dramatique ici, c'est fini. Il n'y a pas de toute puissance de Dieu, il y a juste un ange, un messager qui arrive. Je vais dire, il lui amène le café et les croissants au lit. C'est très proche, voilà, de lui. Puis le voilà qui se rendort. Donc une deuxième fois, enfin voilà, il se rendort, je pense à mon fils, un de mes fils qui avait besoin de deux réveils hein, pour le matin. Voilà. Et voilà, il se rendort et l'ange revient une deuxième fois pour le faire manger. Alors, Élie mange et boit et il se met en route pour 40 jours. Qu'est-ce que c'est ces 40 jours? Il refait le voyage qu'avait fait Moïse sur la montagne. Philippe Anchaud nous a parlé de la rencontre de Moïse avec Dieu, où il avait rencontré Dieu dans le feu d'un buisson. Et puis ensuite, Moïse est monté sur la montagne où il a reçu les tables de la loi. Alors Élie part, il fait ce trajet, il veut aller rencontrer Dieu, il veut aller s'expliquer avec Dieu. Et voilà ce qui arrive.
Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne supporte plus la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis moi seul. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. »
Alors voilà, cette fois, Dieu parle directement à Élie, qui est réfugié dans sa caverne. Il lui parle par une question. Que fais-tu là? Tu en es où dans ta vie? À l'instar de Jésus qui souvent aussi pose la question à une personne. Que veux-tu que je fasse pour toi? Une invitation à s'examiner au très fond de soi-même, de ses motivations, de ses attentes déçues. Ouverture d'un dialogue où le prophète commence à s'expliquer. J'ai tout fait, hein, j'ai tout fait pour toi, Seigneur. Et le résultat, je me retrouve tout seul, menacé de mort.
Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent de son vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un souffle léger ou d'un silence ténu. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ? » Il répondit, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. »
Sors, lui dit la voix. Et voilà, Élie va sortir de sa caverne. Et puis, il arrive un orage puissant, un tremblement de terre. Les feux, les éclairs. Et Dieu n'est pas là. On ne nous dit pas comment il le sait, Dieu n'est pas là. Mais Dieu n'est pas là. Au chapitre précédent, c'était avec un immense orage que Dieu était là, apparemment en tout cas. À Moïse qui était monté sur la montagne, c'était aussi des manifestations avec un feu. Déjà dans le buisson, il y avait ce feu qui ne consumait pas le buisson. Et puis après, sur la montagne, il y avait du feu, il y avait la montagne qui tremblait, il y avait les descriptions d'une espèce d'éruption volcanique. Mais cette fois-là, rien. Dieu n'est pas présent là-dedans. Et c'est dans le bruit d'un souffle léger. Littéralement, c'est le bruit d'un silence. Ce qui est un oxymore, c'est-à-dire une espèce de phrase contradictoire, puisqu'il entend le silence. Et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre et qui répète la même question. Que fais-tu là ? Qui l'invite vraiment à l'intériorité, au recueillement. Et comme un disque rayé, Élie répète la même explication. Je me retrouve tout seul, je suis menacé de mort.
Mais le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu y choisiras de ma part, avec l'huile d'onction, Azaël comme roi de Syrie. Puis tu choisiras comme roi d'Israël, avec l'huile d'onction, Jéhu, fils de Nimshi. Et tu choisiras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont à l'épée d'Azaël seront mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et qui n'auront pas donné de baiser à ses statues.
Alors voilà la réponse de Dieu qui remet Élie en route, c'est une nouvelle mission. Élie va devoir refaire tout le chemin à travers le désert dans l'autre sens pour poursuivre sa mission et pour transmettre. Je crois que la mission que Dieu nous confie, ça consiste aussi toujours à transmettre dans cette chaîne de ce que nous recevons de Dieu et que nous transmettons à autrui. Alors, pour reprendre la question de la violence que j'avais posée au début, c'est vrai qu'on a ici une manifestation de Dieu toute intérieure qui est en contraste complet avec le chapitre qui précède. On n'est pourtant pas encore sorti de la violence, hein, puisqu'on annonce que le prophète suivant va aussi trucider du monde. Mais il faut dire que ça choquait pas du tout les gens de l'époque, hein, de l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Alors je crois que dans ce paysage de violence quand même permanente qu'il y a dans le Premier Testament et qui est souvent mis dans la bouche de Dieu même, il y a des images contrastées. Vous avez par exemple l'histoire du dénombrement du peuple d'Israël que David a fait un jour. Hein, dénombrer le peuple, c'est surtout pour savoir quelle est sa puissance. Et ça lui est vivement reproché. Mais il y a un texte qui nous raconte que c'est Dieu qui a inspiré, qui lui a donné cette mauvaise idée. Et un autre texte qui dit que c'est Satan. Voilà, dans la Bible, il y a des regards, des interprétations différentes et contrastées de qui fait quoi, comment Dieu agit dans ce monde. Je crois que c'est un peuple en détresse parce qu'il a tout perdu, qui réfléchit à son histoire, qui se demande est-ce que Dieu nous a totalement abandonnés, et qui cherche le sens de cette histoire et qui la trouve en Dieu. Mais on a tous ces contrastes que les Juifs acceptent très bien et qui nous invitent à lire la Bible, je vais le dire de manière un peu simpliste, lire la Bible en relief et pas juste tout à plat. Et si vous voulez prolonger ce genre de réflexion, vous pouvez aller suivre des études bibliques qui viennent de commencer. Moi, j'ai reçu ça il y a juste, je crois, une semaine. C'est des études bibliques proposées par Roland Benz avec le pour titre « La violence dans la Bible, de la réalité de la cruauté humaine à son dépassement pour la vie et Dieu dans tout cela ». Alors, c'est une série de 5 études bibliques, dont la première était mercredi dernier. Alors, si jamais j'ai des papiers, si ça intéresse quelqu'un. Alors, je crois que pour nous, finalement, c'est en Jésus-Christ que nous découvrons la manifestation ultime de Dieu. Jésus s'est nourri de tous ces textes de l'Ancien Testament. Il a même dit qu'aucun iota, il n'y a pas le moindre verset des textes qui allait être supprimé. Et pourtant, Jésus a trouvé dans ses ressources une non-violence radicale qu'il a enseignée et prêchée. Quand ses disciples lui ont un jour proposé de faire tomber le feu du ciel sur des concurrents, qu'est-ce que Jésus leur a répondu ? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus a accepté que la violence se retourne contre lui. Et ça, c'est un retournement non seulement pour notre vie personnelle, c'est un retournement pour l'histoire du monde, de la société humaine. Ce retournement radical dont nous faisons mémoire chaque dimanche après dimanche avec la Sainte Cène. Pour terminer, j'aimerais revenir à la pointe personnelle du texte, ce Dieu qui nous rejoint dans les creux de notre existence, même dans les moments les plus difficiles, qui nous rejoint dans notre solitude. Il y a toutes sortes de solitudes. Il peut y avoir celle du deuil, celle de la séparation, du divorce, celle d'une attente déçue, celle du lâchage ou de la trahison de quelqu'un de proche. Et puis aussi cette écoute du silence. Je pense à c'est un chant qu'on aurait pu chanter, mais je crois qu'il n'a pas été prévu au programme. Vous connaissez ce chant comme un souffle fragile avec ses paroles. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Je crois qu'il y a des paroles très profondes dans ce chant, sur cette intériorité, cette écoute d'une parole dans le silence. Et puis pour terminer, je vous propose de lire un texte écrit par Shafik Keshavji. Où est-ce qu'il est ? Je vous le retrouve ici, désolé. Quand un enfant demande qui est Dieu ? Où est Dieu? Nous ne le voyons pas. La réponse, je souffle doucement sur vos visages en vous demandant ce que vous avez vu. Rien? N'avez-vous rien ressenti? Bien sûr que si. Alors Dieu, c'est comme ce souffle. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez sentir ses effets. Là où il y a de la beauté, de l'amour, de la justice, de la liberté, le souffle de Dieu est présent. Alors chut, écoutez. Toujours rien, même pas l'écho de sa voix? Venez, je vais vous dire un secret. Pour entendre un oiseau, cessez d'écouter l'avion. Pour entendre une petite flûte, cessez d'écouter la grande batterie. Pour entendre l'amour, cessez d'écouter la haine. Pour entendre le murmure de Dieu, cessez d'écouter les vacarmes du monde. Et quand vous aurez appris à reconnaître ces voix, vous pourrez entendre l'oiseau au cœur d'un aéroport, la flûte au cœur d'un grand orchestre, l'amour au cœur d'une guerre, et Dieu au cœur de tout être.
Seigneur, j'en ai tellement marre de cette violence, reprends-moi auprès de toi. Il y a trop, je peux pas. Et c'est vrai que moi-même, j'ai du mal à écouter parfois ce murmure. Je suis tout le temps l'esprit occupé. Et dès que j'ai plus l'esprit occupé, je mets des écouteurs sur mes oreilles et j'écoute autre chose. Lorsque je prie, je laisse même pas le temps à Dieu de répondre. Et j'aimerais vous inviter justement à prendre ce temps de louange comme un temps d'adoration à l'Assemblée. Et j'avais envie de vous partager ce verset dans 1 Corinthiens 14, au verset 26, lorsqu'il est parlé des réunions à l'Assemblée, l'exercice des dons à l'intérieur. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. L'édification de l'Église, je suis convaincu qu'elle fait partie de la gloire de Dieu, qu'elle contribue à rendre gloire à Dieu. Et on va prendre quelques chants. Si vous avez une prière à cœur, quelque chose à dire, un chant à donner, n'hésitez simplement pas à élever la voix. Le piano et la guitare seront moins forts dans les transitions. Et prenez ce temps comme un temps en famille, simplement avec Dieu au milieu de nous. Avec Dieu au milieu de nous. Avec ce premier chant, on va simplement nous rappeler que, comme Sylvain l'a dit, pour écouter l'oiseau, il faut cesser d'entendre l'avion. Et j'avais simplement envie de prendre ce chant. Entends-tu les coups qui frappent sur ton cœur? Entends-tu ce que Dieu essaie de te dire simplement?
Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur, ton amour, et sans crainte, je te
chanter dans ta présence.
Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi, Esprit Saint. descend sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur, ton amour est sans crainte, je t'aperçois. Thank you. plus fragile, ta parole se tend comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
Je vous invite à rester dans cette attitude d'adoration et de reconnaissance pour prendre un dernier chant dans lequel on va passer l'offrande. Et simplement donner selon l'abondance de votre cœur, sentez-vous absolument pas obligé. Chantons Rédempteur du monde, sentez-vous libre de chanter selon, et de donner selon l'abondance de votre cœur.
Sous-titrage Société Radio-Canada. ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé ton Fils. Merci parce que tu as tout donné. Merci encore pour aujourd'hui, pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour. Et Seigneur, par cette offrande, nous te disons merci. Nous savons que tu vas l'utiliser pour ton royaume. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Comme introduction à ce retournement radical, j'ai bien aimé ce terme, retournement radical, nous allons le concrétiser, le faire visuellement en partageant ce pain et ce vin. Et je lirai Colossiens 1. C'est Paul qui écrit dans un hymne qu'il envoie aux Colossiens dans sa lettre. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image de Dieu, du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneurs, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, autrefois, nous étions exclus de la présence de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de nos pensées qui nous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui était livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Fils qui a tout laissé et qui s'est donné totalement pour nous, pour nous racheter, pour nous donner cette possibilité de revenir à toi et d'être unis à toi. Merci parce que ce matin, nous pouvons l'affirmer en prenant ce pain et ce vin. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré pour être mis à mort. Il prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Je vous invite à communier et à prendre ce pain et ce vin. Au centre, il y aura les gobelets avec du jus de raisin.
Poursuivre pendant le moment de prière et de partage ce que vous voulez faire avec vous.
Pour ceux qui désirent communier à la coupe, vous faites signe et on vous l'amène.
Je vous invite encore à chanter un chant, puisqu'on a une super équipe là, une super musique, et nous allons chanter « Quand j'ai vu tes mains », en conclusion à ce moment de partage du pain et du vin. Je vous invite à vous lever.
J'ai vu tes mains guérir tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi.
À vous rasseoir. Vous venez de chanter le dernier tube du groupe Naissance des années 76 dont je faisais partie, et ce chant était notre tube, a touché énormément de personnes, était écrit par Philippe Chanson, le frère de Paul Robert, et ça me touche particulièrement de le chanter ce matin. Les annonces, Joanne.
Bonjour à tous. Alors, le mémo est disponible sur le site internet dans l'espace membre. Vous le trouverez. Ensuite, pour cette semaine, il y a la rencontre du conseil jeudi. Et puis, nous aurons aussi samedi matin un moment de réflexion sur l'année qui a commencé. Mercredi, le groupe de jeûne à 19h, et puis le caté qui continue vendredi pour les 11-15 ans. dimanche 8 mars, le Derby des Bois. Comme chaque année, Claude y participera, j'imagine. Et donc, vous pouvez vous informer auprès de Claude Parnigoni si vous voulez y participer. Ensuite, réservez déjà vos dates pour le week-end d'église qui aura lieu le 26 et 27 septembre de cette année. Donc, il y a déjà un lieu qui a été trouvé par Claire-Lise, Chalet des Clarines à Abondance. Et bien sûr que les informations suivront au cours de ce printemps pour les réservations et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, la famille Chanson. Donc, c'est Cédric Chanson, le fils de Anne-Béatrice et Paul Robert, qui est en Guinée. Il était venu quelques fois ici, sauf en septembre l'année passée, on l'avait entendu. Il avait dit 2-3 mots sur le voyage en Guinée. Et puis leurs enfants suivent des cours par correspondance, et puis ils recherchent, donc c'est sauf une initiative des enfants, ils recherchent une personne ou une famille qui serait d'accord d'aller en Guinée pour les aider dans cette école par correspondance. Donc, si vous vous sentez tout à coup appelé à y aller, n'hésitez pas à les contacter, alors soit via Paul Robert et Anne-Béatrice, soit vous voyez en tout petit, mais certainement qu'au fond, vous ne le voyez pas, il y a l'adresse email des parents, ou alors vous pouvez nous demander au niveau du conseil ou des pasteurs pour avoir les adresses. Et puis, vous avez encore jusqu'au 26 janvier pour venir chercher les objets perdus qu'on a retrouvés dans la salle ou dans les différentes salles. Et puis, donc, c'est le deuxième coffre au fond de la salle. Il y a des jeunes qui sont, je crois, assis dessus. Mais vous pouvez aller chercher si vous avez laissé quelque chose. Voilà.
Je me permets d'en ajouter une. Il y a une pièce qui est fort intéressante, Joseph for Rêveur, qui raconte l'histoire de Joseph, le berger Joseph qui arrive jusqu'à la cour du Pharaon, et que c'est jeudi 30 janvier, vendredi 31 janvier, au temple de Plan-les-Ouat. C'est une pièce de Pierre-Philippe Devaux. Voilà, j'ai malheureusement qu'un papillon. Roland Benz m'en a donné plusieurs, je ne sais pas où ils ont disparu. Voilà. Ok, je vous invite à vous lever pour une bénédiction tirée du prophète Ésaïe et qui montre que la perspective de Dieu pour notre monde est bien autre chose que la violence. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ruines et de désastres à l'intérieur de tes frontières. Mais tu nommeras tes murailles salut et tes portes louange à Dieu. Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur, je t'éclairerai pour toujours, je t'illuminerai de tout mon éclat. Que votre semaine puisse être vécue dans cette perspective et que le Seigneur vous y accompagne. Bonne journée.